Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello les mamas, bienvenue dans le podcast qui parle de la maternité, la vraie. Celle qui épanouit, qui intrigue, qui fait peur. Celle qui bouleverse, qui construit, qui propulse en terre inconnue. Celle qui concerne tant de femmes que l'on entend si peu. Chaque semaine, l'une d'entre vous nous raconte son histoire sans filtre. Est-ce qu'elle a toujours rêvé de devenir mère? Comment s'est passée sa première grossesse? Quelles ont été les joies et les épreuves qu'elle a traversées? Qu'est-ce que la maternité a changé dans sa vie? Des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chères mamas, futures mamas ou pas mamas du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Florie voulait devenir mère dès la vingtaine, mais a finalement choisi la voie la plus sérieuse de finir ses études et avec le recul, elle aurait dû écouter son envie. Diplôme en poche, elle et son mari sont prêts à devenir parents et au bout d'un an d'essai bébé, elle tombe enceinte. Une grossesse plutôt douce, hormis au premier trimestre où les nausées vont bon train. Elle met au monde son premier garçon et fait ses premiers pas dans la maternité. Puis l'envie d'un petit deuxième arrive, mais il faudra 4 ans et demi de patience pour qu'elle tombe enceinte, de triplé. 4 années de PMA, de doutes, de disputes, de conversations avec son chéri, de haut et de bas. Une nouvelle étape avec une césarienne d'urgence et un mois de néonate. Florie est alors à la tête d'une famille nombreuse, mais à peine a-t-elle le temps de reprendre son souffle qu'elle découvre une nouvelle grossesse 18 mois après la naissance de ses triplés. Hors de question pour elle d'envisager une IVG, Florie sait qu'elle pourra gérer. Aujourd'hui, elle est donc maman de 5 enfants et elle nous raconte cette vie pleine de bruit, d'amour qu'elle a tant espéré, son rôle de mère et comment elle a repris petit à petit sa carrière. Bonne écoute!
Bonjour Florie!
Et bonjour!
Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas!
Ben de rien, c'est avec plaisir! Merci de m'avoir.
Avec grand plaisir. Alors toi, tu es la maman de 5 enfants. Quel âge ils ont?
Alors, j'ai des triplés qui ont 5 ans. J'ai un grand garçon qui a 12 ans. Et j'ai un petit dernier qui a 3 ans.
Ok. Alors, on va revenir avant que tu deviennes mère. Toi, plus jeune, est-ce que tu as toujours rêvé de devenir maman? Ou c'était pas quelque chose qui t'intéressait fortement, la maternité?
Depuis toute jeune, hein, j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants, mais j'en voulais, on va dire, plusieurs, hein, certainement pas qu'un. Mais le souci, c'est que lorsqu'on est jeune, on est toujours influencé plus ou moins par la famille ou les codes de la société qui vous disent « t'as la possibilité de faire des études, d'avoir une carrière, etc. » Pourquoi faire des enfants si jeunes? Pourquoi? Voilà, on a beaucoup d'obstacles. Et au final, si on n'a pas un caractère vraiment très appuyé, moi, c'était pas le cas quand j'étais jeune, eh ben, on fait plus ou moins ce qu'on nous dit. Et on se dit que ça sera le mieux pour nous et qu'il faut attendre. Et chose que j'aurais jamais dû écouter. J'aurais vraiment aimé avoir un enfant jeune. Et j'ai rencontré Bastien très jeune et lui n'était pas vraiment opposé non plus à ça. Mais on faisait des études tous les deux et il nous a paru logique de les continuer, de les terminer et d'avoir un job, bien évidemment, avant d'avoir des enfants.
Et donc, alors, au bout de combien de temps le sujet est arrivé entre vous? Comment ça s'est passé, la décision de devenir parent?
Ça paraissait logique puisqu'on avait terminé nos études, on était mariés. On avait 26 ans, et on s'est dit, maintenant qu'il n'y a plus d'obstacles, on y va, quoi.
Ouais. Tu avais commencé à bosser aussi ou tu venais juste de sortir des études?
Je venais juste de sortir des études et j'étais en stage pro.
D'accord.
Et j'avais fait en sorte de trouver une formation. Et c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que finalement, j'avais orienté mes études, j'avais fait du droit, j'avais trouvé, une formation directe que je pouvais terminer en 2 ans après mon master. Et je me suis dit, je fais ça, même pas par... je dirais que c'est même pas par passion, hein, parce que j'étais pas passionnée des voies d'exécution. Hein. Ouais. Mais je me suis dit, ça sera le plus rapide pour avoir un métier sûr et pour finir totalement mes études. Et comme ça, au moins, je pourrais faire un enfant derrière. Donc, en fait, finalement, tout était axé sur cette idée de devenir parent. Mais on était toujours, il y avait toujours un blocage, en fait.
Alors, quand la décision est prise, est-ce que tu tombes enceinte facilement après ou ça a mis un petit peu de temps pour le premier?
Alors, quand la décision est prise, je crois que je vais avoir 25 ans et je suis encore en stage. Je me dis, il y en a ras-le-bol, ça fait des années que j'attends. J'ai pas terminé mon stage, mais globalement, c'est un stage pro, c'est rémunéré, c'est un job. Derrière, il y aura un job qui va aboutir. Et je me dis, ça sert à quoi d'attendre plus longtemps? Et donc, je me lance dans les essais bébés. Et ça met un peu de temps, tout simplement, parce que moi, je suis un peu... je découvre mon corps de femme, parce qu'on n'y pense pas à ça. Mais tant qu'on ne veut pas d'enfant, des fois, il y a des femmes, elles ne savent pas vraiment comment leur corps fonctionne. Moi, voilà, j'étais pas centrée sur ma date d'ovulation ou des trucs comme ça. Je savais pas qu'on pouvait avoir des problèmes. Moi, je pensais que, enfin, comme ma mère ou comme ma sœur, j'allais vouloir un bébé et voilà, et que ça allait se faire. Et je pense qu'il y a, voilà, il y a un stress qui a commencé à monter et les mois qui ont commencé à passer. Et là, j'ai commencé à flipper, bien évidemment, parce que ça, c'est mon grand truc. Quand il s'agit d'avoir des bébés, de suite, je suis en panique parce que je me dis, si je peux pas avoir d'enfant, qu'est-ce que va être ma vie, quoi. Et donc, s'ensuit, bien évidemment, toute une batterie de tests.
Ah oui.
Voilà. Et j'emmène Bastien avec moi dans cette frénésie. Mais comme je suis jeune et il n'y a pas l'air d'avoir de problème particulier, oui, alors effectivement, il y a des analyses douteuses, mais sur le coup, la gynéco, elle m'en avait pas parlé, et je l'ai su bien après.
D'accord.
J'ai compris bien après parce que moi, les dosages, j'y connaissais que dalle, et moi, la gynéco, et je pense qu'elle a voulu me protéger par rapport à ça. Elle m'a dit, écoutez, vous inquiétez pas, ça va aller. Et au bout de quelques mois, voilà, peut-être même pas un an, je suis tombée enceinte.
Ah oui, d'accord. Ok, quand même un an d'attente.
Ouais. Quasiment.
Et alors, comment t'as découvert ta grossesse?
La première grossesse, ça a été très facile. J'ai découvert parce que j'avais plus de règles.
Ouais.
Hyper original. Hyper stressée, comme d'hab, test, là, positif. Voilà. Rien de fou.
Ouais, mais t'étais trop contente. Ça y est, enfin.
Oh, on était aux anges. Je crois qu'on s'est mis à pleurer tous les deux. Quoi. Ouais. Vraiment.
Et alors, comment s'est passée cette première grossesse?
Pour tomber enceinte, j'avais galéré un peu. Par contre, pour la grossesse, aucun problème, vraiment. Tout s'est passé nickel. Voilà, j'ai accouché après. La péridurale n'a pas fonctionné, etc. Mais bon, globalement, tout s'est bien passé. Arthur est né en bonne santé, pas de souci.
Ouais. Tu avais fait un projet de naissance particulier ou c'était tu y allais un petit peu à l'inconnu et c'était péridurale et...
Alors, j'avais prévu de faire la péridurale, voilà. Mais quand ça n'a pas marché, on m'a dit, écoutez, madame, maintenant, il faut pousser... ok, allons-y gaiement, quoi. Ouais. Voilà, mais j'étais pas. C'était pas. J'avais pas fait de projet particulier. En fait, quand on est jeune, on suit le cours des choses. On se pose pas tant de questions.
Et donc, la rencontre avec ton bébé, ton petit garçon, est-ce que tu avais prévu d'allaiter?
Oui, j'avais prévu d'allaiter. Ça s'est fait spontanément. Je l'ai fait les trois premiers mois. Et puis après, globalement, on est passé au biberon. J'avais pas du tout envie de le laisser.
Ouais.
Donc, j'ai pas repris le travail. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai passé mon examen final lorsque j'étais en stage. Ouais, c'est ça. Et c'est que ça commence à dater maintenant. J'ai passé mon examen final lorsque j'étais en stage. C'était à Paris. Et c'était très compliqué, en fait, de passer l'examen alors que j'étais enceinte. Parce que moi, le truc quand je suis enceinte, c'est que je vomis tout le temps. Les trois premiers mois, c'est galère le premier trimestre. Et donc là, passer un examen, aller à Paris pour passer un examen par-dessus, c'était le calvaire.
Ah oui.
J'ai réussi mes écrits, mais en fait, le stress est monté tellement fort à l'oral que entre chaque session, je vomissais. C'était insupportable. Je sortais que des conneries. C'était... Vraiment, c'était incroyable. Et j'avais bien réussi les écrits, mais j'ai foiré complètement les oraux. Et je me suis dit, quand Arthur est né, je me suis dit, je n'y retourne pas.
Ah ouais, d'accord.
Le stage était terminé, je ne retourne pas passer mon examen. Et je ne l'ai pas passé. Et j'ai voulu rester vraiment les premiers temps avec Arthur.
Ouais.
Jusqu'à, enfin, j'étais pas prête. En fait, moi, le truc, c'est que j'arrive pas à laisser. Vraiment, ça me faisait mal au cœur de le laisser à 3 mois pour reprendre le job. Et avec Bastien, bon ben, on a. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de déménager.
Ok.
Parce que mes parents nous ont proposé de nous héberger dans un logement qui louait pas.
Ok.
Et grâce à ça, j'ai pu garder Arthur les premiers mois de sa vie.
Tu l'as gardé jusqu'à quel âge ?
Je l'ai gardé jusqu'à 9 mois.
Ouais.
Ah, parce qu'à 9 mois, après, il fallait quand même au bout d'un moment que je retourne travailler. Entre-temps, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que quelques temps après la naissance d'Arthur, j'ai été très malade.
Ah oui ?
J'ai attrapé une pneumonie bactérienne et les deux poumons ont été touchés et ça a été très très long. J'ai perdu 10 kilos, j'arrivais plus à m'occuper de lui et les médecins m'avaient dit il faut vous mettre en quarantaine parce que vous pouvez pas rester avec le petit. Et au moins, si vous êtes avec lui la journée, vous devez porter un masque tous les jours. Et ils ont dit c'est soit vous le voyez épisodiquement et vous retournez dans votre famille pour pouvoir vous soigner, soit on vous hospitalise. Donc j'ai choisi évidemment de retourner chez mes parents l'espace de quelques semaines,
ouais,
et de venir voir Arthur la journée. Et on s'est organisé comme on a pu, vu que c'était en été, Bastien avait posé des vacances. Et c'est comme ça qu'on a surmonté l'épreuve, mais ça a été très dur parce que j'étais vraiment très très malade. Je vomissais en toussant tellement je toussais, j'arrivais plus à retrouver de l'air, j'étais engorgée, les traitements antibiotiques étaient très forts, la cortisone et tout et tout. Je me suis fracturé 2 côtes en toussant.
Oh là là.
J'étais très maigrie, j'ai mis vraiment beaucoup de temps. Et puis, une fois que j'étais guérie, j'ai repris cash le travail et j'ai eu une place en crèche. Et après, la fatigue aidant, la crèche, c'était très compliqué. Arthur, il pleurait beaucoup puisque c'est une période où, justement, 8-9 mois, la séparation est assez compliquée pour les enfants parce que là, ils prennent conscience. Donc, ça a été la pire période. Il hurlait quand je le déposais. Il était submergé par l'émotion quand je revenais. Moi, j'en pouvais plus. Et donc, finalement, j'ai fini par être malade régulièrement. Là, pendant 1 an, je faisais des bronchites chroniques, c'était une catastrophe. Et lui, du coup, comme il commençait la crèche, il était malade pareil. On enchaînait les otites, les bronchites. Moi, j'allais au boulot avec de la fièvre. Enfin, c'était un cauchemar. J'ai passé une année, vraiment, j'étais très amaigrie et j'arrivais pas à reprendre le dessus.
Ça devait être intense, effectivement.
Ouais, c'était chaud.
Et ensuite, donc, ça a été... T'as pu reprendre.
Alors, j'ai fini, bien évidemment, par guérir. Hein. Mes côtes ont été douloureuses pendant très longtemps, mais j'ai fini par guérir. J'ai été bien suivie par une pneumologue. Arthur, lui, il a passé le cap aussi, de la crèche. Et moi, au fur et à mesure, j'ai changé de job régulièrement pour essayer de me rapprocher de plus en plus. J'ai fini par trouver un job à Monaco, là où on était, vu qu'on n'était pas loin, et que Bastien travaillait à Monaco. La crèche était à S-Village, donc c'était pas trop loin non plus. Et voilà, les choses se sont mises en place. Bon, le job à Monaco, c'était un calvaire aussi. Quand j'ai repris, on travaillait très tard et c'était que du secrétariat. Et mon patron était tyrannique. Et du coup, j'ai fini par trouver un CDI ailleurs. Et là, j'ai commencé à retrouver de la stabilité par rapport à... Voilà, j'ai pu mettre en place une organisation. J'ai pu mettre en place diverses choses pour... pouvoir moi aussi subvenir aux besoins de ma famille, malgré tout beaucoup moins que Bastien, puisque c'était lui qui avait une véritable carrière. Moi, j'avais tout laissé en plan.
Ouais.
Mais c'était pas grave. C'était pas grave.
Et alors, au bout de combien de temps vous parlez d'un deuxième ?
J'avais trouvé donc ce CDI, j'étais en place, je bossais tous les jours et je me suis dit Arthur rentre à l'école, ça y est, maintenant on est stable, on a notre boulot. Voilà, je voulais plus attendre maintenant pour le deuxième. Comme j'avais été très malade, du coup, pour sa première année de vie, ça avait été compliqué. Donc, il m'a fallu un peu de temps pour me remettre, mais à sa rentrée à l'école, c'était pour moi mon objectif de dire, on va agrandir la famille, quoi.
T'avais déjà, toi, ce désir d'avoir une famille nombreuse ou t'avais une idée en tête ou pas du tout?
Alors, j'avais pas planifié de famille nombreuse parce que, tout simplement, une famille nombreuse, déjà, il faut pouvoir la faire. Et que moi, déjà, quand j'ai compris que ça allait être galère et pour avoir le deuxième, je me suis dit, la pauvre, laisse tomber pour le troisième. Et le quatrième, j'y pensais même pas, quoi. Pour moi, en fait, toute possibilité de grossesse devenait une chance. Et je pouvais même pas envisager la possibilité de pouvoir avoir beaucoup d'enfants parce que tout simplement mon corps ne me le permettait pas, donc j'osais même pas y penser.
Ouais. Donc là, vous prenez la décision de faire un deuxième bébé. Comment ça se passe? Est-ce que tu galères aussi pendant un an comme le premier, ou plus ou moins?
Ouais, la grosse galère. Donc là, en fait, par contre, là, je prends les devants, je me dis, attends, là, maintenant, je vais avoir 30 ans. Si ça marche pas dans les 6 premiers mois, c'est qu'il y a une galère.
Ok.
J'en ai un, donc normalement, je suis moins stressée. Voilà, mon corps a déjà fait le job, donc je sais. Et effectivement, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, donc j'attends pas. Je vais voir la gynéco, je dis, bon, écoutez, faites péter les analyses tout de suite, testez-nous sur tout. Qu'on soit fixé sur ce qui va pas.
Okay.
Donc on fait les analyses. Alors là, c'est analyse complète. Donc je me tape la radio, des trompes, machin, les échographies. Bon, au départ, ça reste quand même soft hein, par rapport à de la PMA classique. Et là, elle me dit, écoutez, effectivement, certains taux sont pas très bons, mais elle est toujours confiante. Mm. Et tout, je pense que c'est comme ça qu'elle voit les choses, c'est-à-dire que il y avait un aspect psychologique qui faisait que elle enrobait le truc pour que ses patients soient pas paniqués, parce que si tu commences à paniquer, ça crée des, ça malgré tout on va te dire, enfin moi j'étais très cartésienne dans ma façon de réfléchir, et par exemple moi je me disais si l'analyse est mauvaise je peux pas avoir d'enfant, alors qu'en fait les choses elles marchent pas comme ça, et la gynéco le savait très bien, et elle a pas voulu me stresser, sauf que moi je me suis fait un petit déroulé des événements toute seule, et quand et donc j'ai voulu rentrer en centre PMA, et en centre PMA on m'a dit on m'a balancé directement dans les process de PMA, et après j'ai dit à ma gynéco laissez tomber, maintenant je suis suivie au centre et basta quoi. Peut-être j'aurais pas dû faire ça de suite.
Ouais. T'aurais dû continuer un petit peu à faire quoi, une stimulation.
Des stimulations, de toute façon, ça commence toujours par ça, parce que moi j'avais pas de problème fonctionnel, mes trompes étaient nickel, mon utérus aussi. Voilà, sans rentrer dans les détails médicaux.
Ouais.
Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, je connaissais pas mon corps, et je crois que je le connais pas maintenant encore. En fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que si on vous dit pas, vous avez un problème. Physique, c'est-à-dire problème au niveau de l'utérus, ou endométriose, fibrome, si vous avez des problèmes aux trompes, on n'a pas mis en évidence des problèmes mécaniques, le reste,
ouais.
on peut pas juger de ce qui va se passer vraiment dans l'avenir. Effectivement, vous pouvez très bien dire à une femme, vos analyses elles sont à chier, et vos ovaires elles fonctionnent mal, ça marchera pas. Là, on savait pas. J'ai vu toute une série de médecins, j'en ai vu plein. Puis moi, j'étais une emmerdeuse née, donc si tu me donnais pas ce que je voulais, si t'avais tendance à être désagréable avec moi, ou si les réponses apportées, ou si la vitesse du traitement n'allait pas, ça voulait dire qu'il fallait changer, parce que je me suis dit, plus t'attends, plus tu perds du temps, plus tes chances vont devenir plus faibles. Donc le temps, pour moi, c'était important de pas le perdre. Ouais. C'est ça l'histoire, c'est de pas rester bloqué dans des process de PMA qui ne fonctionnent pas, quoi. Changer de médecin, changer d'idée, changer d'avis, et j'ai rencontré tout un tas de médecins avec qui je m'entendais pas du tout, quoi. Pas du tout.
Et comment tu l'as vécu, toi, ça, psychologiquement, qu'il fallait aller en parcours de PMA?
Moi, j'ai pas mal vécu le fait d'aller en parcours de PMA. Moi, ce qu'il fallait, c'est atteindre mon objectif, parce que l'idée de ne pas avoir d'enfant, de ne pas pouvoir tomber enceinte, c'était une panique, mais intégrale. C'est-à-dire que j'étais incapable de réfléchir à autre chose.
Ouais.
Pourtant, j'avais une masse de travail insupportable. Je faisais mon job, mais tout au long de la journée, je ne pensais qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. C'était devenu, finalement, ce qui m'empêchait de vivre et de respirer. Et la seule chose qui me soulageait, c'était passer du temps avec Arthur. Et en fait, au fur et à mesure que j'y allais, à tâtons, j'ai compris que ce qui allait me soigner, c'était passer du temps avec mon enfant. Arrêter de courir après mon emploi du temps, mais trouver une solution pour dégager du temps pour lui.
Ouais.
Parce que lui, ça allait lui faire du bien, il était à l'école, et moi, c'était ce qu'il me fallait aussi. En fait. Mmh. C'est comme ça que j'ai demandé un aménagement de mon temps de travail.
D'accord. Ok, vous passez à temps partiel ?
Non, alors on m'a accordé les mercredis et après j'ai réussi à avoir du télétravail. À l'époque, ça se faisait pas encore trop.
Ah, oui.
Mais comme moi, j'étais vraiment que sur ordi. J'étais pas une grosse bavarde, mais par contre, j'engloutissais beaucoup de lignes, hein, de papier juridique. Ça m'arrangeait. Ça m'arrangeait et j'ai commencé vraiment à passer du temps de qualité avec mon enfant. Et le soir, j'ai pris la décision de laisser tomber complètement, on va dire, ma vie de couple pour de suite, par exemple, aller quand on mangeait et après je m'en allais avec Arthur. Et toutes les soirées, c'était ça.
Mais oui. Quand tu dis tu t'en allais avec Arthur, c'était quoi? T'allais dans la chambre jouer?
J'allais dans la chambre avec lui. On faisait des jeux avant de se coucher. On faisait des histoires. Je lui laissais regarder les dessins animés. Je lui laissais me raconter tout ce qu'il voulait. En fait, l'idée, c'était vraiment, au lieu de me concentrer sur ce que j'ai pas, me concentrer sur ce que j'ai là, en fait. Et d'en profiter parce que on se rend pas compte à quel point le temps passe vite.
Ouais. Et t'as pu parler avec d'autres femmes qui vivaient la même chose ou pas à ce moment-là?
Non, parce qu'autour de moi, il n'y en avait pas. Ma collègue de travail, elle est tombée enceinte, les doigts dans le nez. J'ai eu une collègue de travail qui est arrivée après, qui, elle, a commencé les process après moi et qui, vraiment, elle a vécu des choses très difficiles. Elle n'avait pas d'enfant. Et à ce moment-là, on a commencé à partager beaucoup de choses toutes les deux parce qu'il y a eu des moments où elle paniquait parce qu'elle ne comprenait pas. Par exemple, moi, j'ai vu des médecins balancer des lignes par mail avec des ordonnances incompréhensibles. Et un jour, je la vois avec ses papiers, elle en avait partout. Et elle s'est mise à pleurer. Et je lui dis, attends, c'est quoi? J'ai tout lâché. Je suis allée avec elle, on s'est enfermés, on a fait le tri des papiers. Et d'un seul coup, comme ça, elle s'est mise à faire une espèce de planning journalier. On a rédigé ce tableau à l'ordi. Et je lui dis, t'inquiète pas, à partir du moment où tu connais les différentes étapes, et où tu arrives à interpréter tes résultats, ça va aller. Et c'est, en fait, ça a été aussi, ça m'a permis à moi aussi d'avancer, de l'aider.
Ouais.
Et on a partagé ça au fur et à mesure.
Et alors, pour toi, ça a pris combien de temps, toute cette PMA?
Ça a pris 4 ans et demi.
4 ans et demi, ouais. Comment tu as vécu 4 ans et demi sans que ça fonctionne, pour te dire justement, comme ce que tu disais à ta collègue, ça va aller? Comment t'as fait, toi, pour que ça aille chaque jour où il n'y avait rien, quoi? Il ne se passait rien?
En fait, on passe d'un process à un autre. D'un échec à un autre échec. On se dit, le suivant, ça va marcher. Puis le suivant. Puis on vous change de traitement. On vous donne... moi, je me rappelle, on m'a donné des trucs qui me rendaient malade. Un jour, on m'a donné un truc pour me ménoposer artificiellement, soi-disant, pour reposer l'utérus avant les transferts. Le truc, ça me faisait vomir, ça me donnait des maux de tête insupportables, vraiment une merde sans nom. Et au bout d'un moment, tu te dis, je sortirai jamais de ça, je sortirai jamais de ces douleurs. Et petit à petit, en fait, t'avances, tu continues d'avancer, mais tu es plus résigné et tu te dis que, je sais pas, tu te dis que tu es ton corps. Tu n'es pas normal, que ton corps et ton esprit sont deux choses différentes et que tu contrôles plus rien, en fait. C'est fini. Et malgré tout, tu sais pas comment c'est possible, mais tu gardes l'espoir. Mm. Tu gardes l'espoir parce que du côté de Bastien, ça marche très bien. Moi, on me disait, mais ça peut marcher du jour au lendemain aussi. Vous n'êtes pas stérile, madame. Et je crois que même les médecins, à un moment donné, perdent pied. Mais c'est ça qu'on dit pas aux femmes, c'est-à-dire que déjà, certaines choses sont pas noires ou blanches. Il y a des médecins qui vous disent vous pouvez pas du tout et qui laissent les femmes dans un état d'anéantissement total. Et une fois qu'elles se sont dit en fait c'est fini pour moi, on va se lancer dans un autre truc. Où on va faire autre chose, on va plus y penser, on va pas en avoir, on va faire sans, on va utiliser d'autres process différents. Elle tombe enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut penser aussi que il y a un fonctionnement hormonal et que ce fonctionnement hormonal il est induit aussi par le cerveau. Est-ce qu'il y a des verrous inconscients dont on n'aurait pas la connaissance? Je sais pas.
Ouais, ça reste un mystère.
Exactement. Mmh.
Et alors, justement, tu parlais de ta vie de couple. Comment ça se passe pendant 4 ans et demi où toi, t'es focus et sur Arthur et sur ce parcours? Ton chéri, comment ça se passe tous les deux? Lui, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça?
Alors, j'ai dédié un chapitre entier dans mon livre à la vie de couple. Ouais. Parce que la vie de couple, en fait, elle est très impactée par la PMA.
Oui.
Et il y a beaucoup de femmes qui perdent leur moitié en chemin. Hein, c'est-à-dire que certains hommes peuvent pas supporter la détresse, quoi. Et moi, au début, c'était très compliqué parce que Bastien me disait « Mais tu vas pas te mettre à pleurer à chaque fois que t'as tes règles. » En fait, les hommes, des fois, ils fonctionnent vraiment... ils sont pas subtils. Ils essayent pas de toucher le petit truc, tu vois, de dire... ils ont pas les mots. Et moi, Bastien, c'est pas un grand poète, donc il n'était pas du tout en phase avec ce qu'il vivait. Et ça a été très compliqué pour nous, jusqu'au jour où, finalement, c'est, je dirais, la PMA, ça a été un long processus pour apprendre à réellement connaître ce que j'étais, mais ce qu'il était aussi.
Ouais.
C'est-à-dire que j'ai appris à surmonter un petit peu mes démons, et j'ai appris aussi à comprendre que les personnes autour de nous, elles ne peuvent pas nous donner ce qu'on attend. Par exemple, un homme, si tu attends de lui du réconfort, de l'affection, il faut te dire que parfois, c'est pas ça que tu vas obtenir. Il faut arriver à prendre les personnes comme elles sont. Il faut arriver aussi à mieux communiquer sur notre désarroi. Et avec Bastien, 4 ans et demi, ça nous a forgé parce que, au bout d'un moment, au début, il supportait pas et jouait gonflé. Et puis après, au bout de plusieurs années, il a compris qu'il y avait une réelle détresse. Il y avait une réelle détresse aussi chez lui. Et moi, j'ai appris aussi à la déceler, malgré tout. Et finalement, à force de communication et de temps passé à discuter, on y est arrivé. Et c'est là que, quand je lui ai dit, moi, maintenant, toutes mes soirées, c'est avec Arthur, il y a eu énormément de concessions de sa part. C'est-à-dire que lui, il s'est dit, OK, si ça peut te faire du bien, faisons ça.
Ouais, c'est beaucoup de dialogue.
C'est énormément de dialogue, mais c'est aussi beaucoup de disputes, beaucoup de cris, beaucoup de moments de détresse dans un couple.
Mm.
Nous, on a tenu parce qu'on s'aime profondément, mais il suffit d'une faille et tout peut basculer.
Ouais.
Et moi, il savait. Je pense que c'est un peu ce qui a sauvé notre couple. Il savait pertinemment que mon objectif, c'était d'avoir des enfants. Et que si il sortait du cercle, je me débrouillerais autrement.
Ouais. Est-ce que tu en parlais aussi à Arthur à ce moment-là, pendant ces 4 ans et demi?
Alors, j'en ai parlé à Arthur. J'essayais un peu d'aborder le sujet, mais Arthur, il était tout petit.
Ouais.
Et puis Arthur, il commençait l'école. Et lui aussi, il avait ses propres démons à gérer. Hein, parce qu'on avait... je suis tombée sur une enseignante en première année de maternelle qui était détestable.
Ah.
Qui lui a fait beaucoup de tort, notamment par rapport à la propreté, qui l'a culpabilisé, qui l'a humilié, qui m'a dit que moi j'étais pas à la hauteur entre guillemets, et qui m'a ouvertement dit en rendez-vous face à face avec la maîtresse, qui m'a dit Arthur, c'est un enfant qui est collant et qui est tout le temps sur les assistantes, qui est tout le temps sur moi, qui a besoin d'être réconforté tout le temps. Il serait temps pour le faire grandir de lui faire des petits frères et des petites sœurs. Comme ça, cash.
Waouh. Ah oui.
Voilà. Alors, avec le... Moi, j'étais jeune et je ne savais pas trop comment réagir à cette... Et donc, la seule chose que j'ai répondu à cette mégère, c'est « Oui, madame, vous inquiétez pas, je fais ce qu'il faut.
»
Voilà. Mais celle-là, ça a été... Maintenant, avec le recul, je me rends compte et je peux vous dire que si jamais je croise encore une bonne femme comme ça, je la démonte.
Ok, donc 4 ans et demi d'attente, de réflexion, de communication avec ton chéri. Et puis, un jour, ça fonctionne.
Un jour, miracle, ça fonctionne. Ça fonctionne après une FIV, incroyable. Et les deux prennent.
Ouais.
Et qu'est-ce qui se passe? Un des deux se dédouble et ça fait 3. Là, c'est chaud parce qu'on passe de absolument le néant pendant 4 ans et demi à qu'est-ce qu'on va faire?
Ah ouais, ah là là.
Et et déjà, moi je dis commençons par le commencement. Est-ce que cette grossesse, déjà, il faut que je me concentre pour essayer de l'amener jusqu'au bout. Mmh. Vivre d'abord la grossesse.
Ouais.
Et ensuite, on verra bien. En fait, l'important c'est que les enfants soient en bonne santé, l'organisation en sorte.
Mmh. Ouais, donc vous vous dites assez rapidement, on y va. avec les triplés, c'est parti.
Alors, assez rapidement, moi, donc la gynéco me dit, écoutez, parce qu'entre-temps, j'avais changé 15 fois de gynéco, et celle-là, je trouvais très humaine, et c'est elle que j'ai décidé de garder. Mm-hmm. La gynéco me dit, vous avez la possibilité de faire une réduction embryonnaire. Et là, tout de suite, ça fait tilt dans la tête de Bastien, il me dit, pour ta santé, c'est mieux, et nous, on va peut-être pas s'en sortir financièrement avec 3 enfants qui arrivent. Je lui ai dit, écoute, ma santé, laisse-la tranquille. Je lui ai dit, maintenant que c'est dedans, ça sortira plus. Et donc là, il a dit, bon, ok, j'assiste pas. Voilà. Et le côté financier, j'ai dit, ben, on verra bien.
Ouais. Alors, comment s'est passée cette grossesse multiple?
Alors, le premier trimestre, en soi, c'est pas le plus dangereux. C'est surtout au niveau des effets secondaires que ça a été terrible. Enfin, des effets secondaires, des effets du premier trimestre, en fait. Dès le départ, j'ai commencé à avoir des nausées spectaculaires avec des vomissements, mais alors des trucs de folie. C'est-à-dire que même un verre d'eau, je le vomissais, quoi. Mmh. Il fallait quand même que j'aille, et à ce moment-là, ben, je pouvais pas continuer de travailler parce que, ben, c'était impossible de, les clients, je les regardais, j'avais qu'une seule envie, c'était de prendre la poubelle et de vomir dedans, quoi. Donc, et puis c'était devenu très dur. En fait, les premiers symptômes de la grossesse, ça m'a fait comme une espèce de, on aurait dit une sorte de grippe, quoi, un truc qui t'arrive dessus en mode écrasant, où les taux d'hormones étaient démentiels. Et là, je me suis dit, waouh, c'est chaud. Et donc, j'ai évité de bouger trop le moins possible. Je m'alimentais comme je pouvais, avec des yaourts nature, des trucs qui me faisaient pas trop vomir. Et j'ai passé tout le premier trimestre à peu près comme ça. Et finalement, vers le 4e mois, ça s'est arrêté. Et là, j'ai pu commencer un 2e trimestre plus cool. Mm. Mais bon, après, il y a la vitesse à laquelle grossissait mon ventre. Puisque là, il y a 3 enfants qui grossissent, oui. Donc vous n'avez pas le loisir d'apprécier chaque petite semaine là, le truc gonflé à vue d'œil.
Oui, oui.
J'ai vraiment pas eu le temps de réaliser parce que j'ai accouché à 7 mois et à la 30e semaine d'aménorrhée, j'étais déjà à l'hôpital parce que le professeur qui gérait le service de grossesse pâteau m'a dit non, terminé, on vous hospitalise parce que c'est dangereux. J'étais très très suivie, mais vraiment. Là, quand c'est comme ça, vous êtes suivie non-stop avec les sages-femmes qui viennent à domicile. J'avais une échographe qui était spécialisée, qui faisait beaucoup de grossesses multiples, donc j'allais jusqu'à Grasse, qui n'était pas du tout à côté de chez moi, pour pouvoir faire des échos, on va dire, chez elle. J'avais très peur du ce qu'on appelle le syndrome transfuseur transfusé parce que j'avais 2 de mes enfants qui étaient alimentés par le même placenta,
ouais.
Et j'avais qui a un problème de croissance, qui a un des 2 enfants qui s'arrête de vivre, enfin des 2 jumelles plutôt parce que mon Maxime étant dans sa poche, il avait moins de problèmes que les filles. Et puis non, allez comprendre, tout s'est passé nickel jusqu'à la 33e semaine où là j'étais vraiment énorme et même allongée, j'étais allongée toute la journée, même allongée la poche des os s'est rompue.
Ouais.
Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour essayer de tenir au maximum, le plus longtemps possible. On m'a donné des choses pour arrêter les contractions et tout. Et puis, dans la nuit, on m'a dit, bah, écoutez, ça ne s'arrête pas. Puis moi, je criais de douleur. Je disais, mais vous ne comprenez pas, je suis en train d'accoucher là. Je lui dis, il n'y a rien à faire pour calmer les contractions. Maintenant, il faut y aller. Et donc, ils ont dit, ouais, bah, ok, on la descend. Et en fait, on m'a descendu aux urgences gynéco. Et là, ils ont dit, bon, ben, césarienne en urgence, on peut rien faire de plus, il faut y aller, elle est en train d'accoucher, là. Et j'étais paniquée, j'ai à peine eu le temps d'envoyer un texto à Bastien pour lui dire, ben, viens. Finalement, tout s'est fait tellement rapidement que j'étais seule.
Oui.
Seule, dans une toute petite salle où il y avait 15 personnes. Ils étaient tous, je pense, sur le qui-vive, mais vous accouchez à 5 heures du matin, donc vous dites, ben, le personnel, il est en fin de nuit. Il n'en peut plus. Il a géré toute la nuit des accouchements en urgence, des si, des ça, vous ne savez pas trop. C'est une césarienne, donc je suis consciente. Et on les sort au fur et à mesure. J'essaye d'entendre les cris, on ne les montre pas. C'est pour moi une situation incroyable. Quoi. Ouais. Je me dis, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'ils vont bien? On me dit juste, oh, regarde, il a pleuré. Et puis ensuite, on me les enlève. Et puis, je ne sais plus rien. Ça a été extrêmement dur, mais Bastien est arrivé pour prendre le relais.
Mmh.
Et du coup, lui, il en savait plus, mais comme il ne pouvait pas rentrer, qu'il fallait continuer de me suturer, hein, parce que malgré tout, une césarienne, pour une grossesse triple, ça, ça, voilà, ça se passe pas, on va dire, de la même façon. C'est, il faut quand même un petit peu plus de temps, enfin, je suppose.
Ouais.
Donc là, c'est panique à bord jusqu'à ce que je puisse voir mes enfants, quoi.
Comment ça se passe? Ils te les ont posés quand même sur toi quand ils sont arrivés ou ils sont partis direct
Non, en fait, on me les pose pas puisque Maxime est parti en réa parce qu'il avait des problèmes respiratoires. Les filles, on en a pas eu besoin, mais elles ont eu besoin de la couveuse tout de suite.
Ouais.
Et du coup, on me les a pas posés dessus et il m'a fallu quelques heures pour me remettre de la césarienne parce que j'avais passé toute la nuit à coucher finalement.
Ouais.
Et on m'a fait une césarienne que vers 5h. Et du coup, je me suis endormie. Ça a été un peu le blackout. Et 3 heures après, Bastien, il m'a réveillée. Il m'a dit, comment tu vas? Tu veux les voir? Et là, je suis allée en réa néonat pour les voir. Parce que du coup, comme Maxime était en réa, ils ont amené les filles aussi en réa. Et après, ils les ont passées quelques heures plus tard, ils les ont passées en néonat. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu les toucher.
Mmh. Donc là, t'as 3 bébés.
Ouais, c'est ça, c'est fou. On se rend pas compte, mais on se dit. Et pourtant, malgré tout, je me suis pas dit ah j'ai 3 bébés. Je me suis juste dit donnez-moi mes enfants.
Quoi. Ouais.
Comment ils vont, comment ils s'alimentent. En fait, on est prise dans un espèce de tourbillon et on pense pas spécialement au fait qu'on est pas entrippé. On pense juste qu'on a des enfants, quoi, ouais. Et qu'on veut qu'ils soient en bonne santé, c'est tout.
Et donc là, projet d'allaitement ou trop compliqué?
Projet d'allaitement. Et je me souviens toujours d'une... Parce que moi, j'étais seule à la maternité et je voyais toutes les mamans avec leur bébé qui allaient leur donner le bain, ici et ça, et moi, j'avais rien avec moi. Donc, c'était super difficile. Il fallait que je prenne le... Il fallait que je me lève, il fallait que j'aille en néonat, que je prenne l'ascenseur, que j'aille les voir comme si vous alliez voir quelqu'un d'hospitalisé, en fait.
Ouais.
Et je me souviens toujours de ce moment où j'ai commencé, on m'a dit, il faut tirer le colostrum. Ils peuvent pas téter de toute façon.
Oui.
Et donc je tire le colostrum et à un moment donné je fais un mauvais geste et je fais tomber le flacon et tout coule par terre. Là je me mets à pleurer en disant oh, regarde tu leur as enlevé cette chance de d'être immunisé, je me culpabilise à mort. Donc j'essaye de retirer derrière encore et encore, j'en obtiens évidemment beaucoup moins. Je vais arrêter en néonat, j'étais tellement fait en néonat, j'étais mal. Et bon, heureusement le personnel est là pour me rassurer. Il me dit vous allez avoir les montées de lait, ça va aller, vous allez tirer votre lait, tout va rouler, vous inquiétez pas. Puis en attendant on leur donne du lait pré-main. Voilà, donc bon, après les équipes sont vraiment à l'écoute malgré tout. C'est important parce que les mères d'enfants prématurés sont souvent déstabilisées. C'est pas comme avoir un enfant né à terme. Moi, j'apprenais tout, là. Ouais. Tout.
Et donc là, toi, tu restes combien de temps à l'hôpital suite à ta césarienne?
Alors, moi, je suis vite gavée des hôpitaux. Et au bout de 3 jours, j'ai dit, laissez-moi sortir.
Okay.
Et on me dit, on peut transférer vos enfants à Monaco, c'est plus proche de chez vous. J'ai dit, ils ont une néonate. Ils m'ont dit, oui, tout est prévu. J'ai dit, bon, allez. Et on s'en va. Et donc, j'ai préparé mes affaires. Ils sont venus chercher mes enfants en ambulance. Et on est parti. Et je suis rentrée... Voilà, je les ai accompagnés jusqu'à l'hôpital. Et après, je suis rentrée à la maison retrouver Arthur. Et après, j'ai passé toutes mes journées, le temps qu'ils sortent, toutes mes journées avec eux. Voilà, donc on faisait du poids à peau, je tirais mon lait. Quand ça a pu être possible, j'ai commencé à essayer de leur donner des petits biberons. Mais au départ, ils étaient nourris par sonde. C'était assez dur à accepter, mais ils n'arrivaient pas à téter, pas du tout, du tout, du tout.
Mais
oui. Ça a été plus long, en fait. Ils respiraient, ils n'avaient pas de détresse respiratoire, ils étaient bien surveillés. J'ai appris à donner les bains, à débrancher les capteurs, à en remettre des nouveaux, à les réinstaller. Vous apprenez, en fait, à faire tout ça. Et jusqu'au moment où vous pouvez enfin les ramener à la maison, où il n'y a plus tous ces fils, quoi.
Ça aura pris combien de temps? Ils sont restés combien de temps au néonat?
4 semaines environ.
4 semaines? D'accord. Mmh. Donc c'était toute une organisation chaque jour
Chaque jour, j'arrivais le matin, je repartais le soir.
Ouais. Ok, donc retour à la maison avec les triplés. Comment ça se passe? Comment vous organisez?
C'est le chaos. Hein. Alors, on sait, moi, j'avais bien sûr tout prévu pour ce qui était vêtements, petit lit. J'avais trouvé 3 couffes, hein. On s'était dit, on va essayer de les caler sur le même rythme.
Ouais.
Tu sais, genre 3 biberons toutes les 3 heures ou toutes les 2 heures, parce qu'ils sont préma, donc ils mangent souvent en petite quantité.
Mm.
Donc on s'était dit on va essayer de les caler sur le même rythme. Prématuré, il faut savoir que il faut pas le laisser dormir, il faut lui proposer à manger régulièrement parce que ben c'est plus fragile. Et donc on n'y est pas arrivé. C'est impossible de les caler sur le même rythme tout simplement parce que ben quand ils voulaient pas manger, ils voulaient pas manger quoi. Ouais. C'est tout. Et puis finalement chacun a trouvé. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même trois enfants, trois bébés différents qui réagissaient différemment et qui n'avaient pas forcément les mêmes besoins au même moment. Donc, il a fallu qu'on s'adapte. Et heureusement, Bastien reste avec moi. Il m'a épaulé les deux premiers mois. Et les deux premiers mois, ça a été une lutte au quotidien, en fait, pour les nourrir, surtout. Nourrir et s'assurer qu'ils étaient en bonne santé, tenir des cahiers à jour. C'est-à-dire qui a mangé quoi, à quelle heure, qui a fait caca, qui a fait pipi, qui a pris ci, qui a pris ça, qui a pris la vitamine, qui a pris... Voilà, c'était dès qu'il y avait un dysfonctionnement, bah, il fallait le noter. Dès qu'il y avait un problème avec le lait, il fallait le noter. Dès qu'il y avait un... Voilà, donc je tenais mes cahiers à jour. La nuit, franchement, on était veillés non-stop, non-stop. Ouais. On essayait un peu de dormir la journée. C'était très compliqué, en fait, on se relayait, mais la nuit, on était obligés d'être à deux. On avait fait une tentative pour... Moi, j'arrivais plus ou moins à gérer le truc, mais quand ça se réveillait tous les trois en même temps, par exemple, c'était ingérable pour Bastien, quoi. Il était obligé d'ordonner.
Et puis, il y avait Arthur à gérer aussi.
Exactement, parce qu'on s'approchait des vacances scolaires, des vacances d'été, et qu'après, Arthur allait être avec nous tous les jours, donc il allait falloir trouver des occupations. Mais bon, dans toute cette frénésie, Arthur, il vivait un peu des vacances extraordinaires aussi pour lui, quoi. Et lui aussi, il n'a pas vu le temps passer.
Comment il a vécu l'arrivée de ses trois frères et sœurs?
Bah lui, je l'ai inclus tout de suite dans le process comme grand frère. Et lui, c'était quelque chose qu'il attendait depuis un moment. Mmh. Et du coup, il était hyper impliqué. Il était hyper impliqué. Il adorait ça. Et puis Arthur, c'est un grand fan. Hein. Il adore les bébés. Il adore tout de suite. Il a été à l'aise. Il a pas vécu ça comme un... Déjà, il avait 7 ans. C'est quand même pas pareil qu'un enfant qui est petit et qui raisonne différemment. Lui, il avait 7 ans et c'était un rôle qu'il attendait. Mmh. En fait. C'était son rôle auquel moi, je l'avais préparé, puisque malgré tout, il a vécu ma PMA aussi et il a vécu l'aboutissement. Et donc, lui aussi, il a eu le temps de se préparer. Et quand il a vu arriver le truc, ben, c'était un peu une aventure incroyable et ça l'a mis sur un piédestal. C'est-à-dire que lui, il s'est positionné en tant que grand frère et il avait une mission. Mmh. Et donc, il n'a pas vécu les choses de manière traumatisante. Au contraire, quoi. Et quand Bastien a repris le travail au mois d'août, ben, souvent il était avec moi et c'est ce que j'explique dans le livre, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu tendance à dire oui, Arthur, il était malheureux de devoir aider tout le temps et tout, mais non, c'est pas comme ça et c'est pas comme ça qu'on voit la vie chez nous. Arthur, il m'a aidé à donner des biberons. On s'est tapé des fous rires quand les gosses ils faisaient n'importe quoi, quand ils ont grandi. J'ai des vidéos extraordinaires où Arthur, il fait des grimaces à Maxime et Maxime, en fait, il le regarde avec des yeux comme si c'était un dieu, quoi. Ouais. C'est ce lien, en fait, qui s'est tissé au fur et à mesure, qui est merveilleux. Et même si, oui, Arthur m'a accompagnée sur plein de sorties, qu'on a eu des galères tous les deux en matière de logistique. Et du coup, Arthur, oui, m'a aidée dans beaucoup de situations et il a vécu beaucoup de choses incroyables. C'est pas un traumatisme pour lui et puis c'était pas en permanence. Mmh. Et s'il y avait eu ça a pu arriver qu'ils me disent oh là là, j'ai envie de jouer aux jeux vidéo, ben tu joues aux jeux vidéo. Ouais. Ou j'ai envie de m'amuser avec mes Legos, ben tu vas t'amuser avec tes Legos. Enfin, j'étais pas là en train de donner des consignes ou de lui créer des contraintes. Mmh. L'important pour moi c'est de créer cet univers familial où il y avait un véritable échange.
Ouais.
Il y avait de l'envie d'être avec les uns et les autres. Pas tout était une contrainte, pas tout pour lui.
Mais oui, c'est la vie d'une fratrie, chacun s'organise, chacun.
Oui, c'est ça. Et puis je pense que ça l'a transformé dans le sens où ça est devenu un petit garçon extraordinaire qui s'est devenu un grand frère. Et je pense que ça se ressentira aussi beaucoup dans sa vie d'adulte. Mm. Vraiment, c'était fluide. J'ai vraiment pas ressenti chez Arthur une quelconque difficulté à gérer la situation.
Ouais.
Et ben, je prenais le temps de faire des trucs, en fait, avec lui.
Ouais. Des petits moments, rien qu'à lui.
Oui, voilà, un moment d'accalmie, que ce soit pour moi, pour Bastien, c'est un moment qui se passe avec Arthur.
Ouais.
Clairement.
Alors, donc, vous trouvez votre petit rythme à 6.
On finit par trouver notre petit rythme à... Ouais. Après, voilà, on est arrivé à identifier... C'est là où Bastien a été hyper efficace. Dès le départ, Maxime a été très problématique. C'est-à-dire que lui, c'était vraiment l'enfant hyper... dès le bébé, il était hyper excité. Il bougeait dans tous les sens. On sentait que voilà, qu'il était, il était plus que les filles et qu'il avait enclenché le mode TGV. donc, la nuit, il était très dur à gérer. Et quand les filles se calmaient et qu'elles dormaient, bah, c'était lui qui les réveillait. Mm. Donc, il finit par faire team séparé avec Bastien. Il s'occupait des filles. Et moi, je gérais surtout le problème Maxou. Et Bastien, il a géré les jumelles à la perfection. C'est-à-dire que je préparais tout le soir avant. Et pendant la nuit, c'est lui qui gérait les bibes. Et quand il était en détresse, il m'appelait. Mais sinon, il gérait super bien le truc.
Ouais.
Ça se passait vraiment bien. Et moi, avec Maxime, j'étais parfois un peu en galère, quoi.
Bon, bah, vous finissez par trouver votre rythme. Et alors, le petit Paul, ce petit chou qui est avec nous là pendant l'interview, il arrive quelques années plus tard.
Il arrive, donc je tombe enceinte, les enfants ont 18 mois.
Ah là là.
Alors, pendant la première année, moi j'avais bien rigolé quand le médecin m'avait dit ça à l'hôpital, à la sortie de ma césarienne. Il m'avait dit, je vous conseille de prendre une contraception, madame. Parce que... il me dit, pendant la première année, vous n'avez absolument pas la possibilité de retomber enceinte après une césarienne. Il faut attendre au moins un an minimum.
Ok.
Il voit que je le regarde, je rigole. Il me dit, non, mais c'est pas parce que vos enfants sont issus d'une PMA que vous pouvez pas retomber enceinte naturellement. Je fais, attendez, j'ai mis 4 ans et demi pour pouvoir avoir des enfants. Vous allez me dire que maintenant, les doigts dans le nez, je vais retomber enceinte.
Ouais.
Donc, il a pas trop insisté. Il s'est dit, bon, celle-là, elle sait tout. C'est encore une emmerdeuse. Donc, ok. Bon, il me dit, je vous prescris quand même un contraceptif. Voilà. Sachez que c'est comme ça. Et donc, le mec me prescrit une pilule et je prends son ordonnance et je la fous à la poubelle. Mais quand même, je suis pas totalement, dénuée de bon sens. Je fais quand même super gaffe la première année. Puis, autant vous dire qu'avec des triplés et un enfant plus grand, la vie de couple, elle est plutôt morcelée. Donc, franchement, c'est pas la première année que tu vas tomber enceinte easy, quoi. Mmh. Et donc, les triplés ont un an. Donc, c'est le mois de mai. Et c'est là que c'est super drôle, cette anecdote, parce que je ne l'ai jamais racontée à personne, hormis, bien sûr, à mes proches. Je crois que j'en ai même pas parlé dans mon livre, il me semble.
Ouais.
Parce que, pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'éphémère. Ils ont un an. Et je me dis, bon, cette histoire de césarienne, c'est de la dope, clairement. Enfin, je veux dire, maintenant, je vais arrêter de me prendre la tête à essayer d'éviter mes périodes d'ovulation parce que, de toute façon, mes périodes d'ovulation sont inefficaces. Et bien, peut-être qu'un mois plus tard, je fais un test de grossesse positif. Le truc de fou furieux.
Ouais.
Et je fais une fausse couche derrière. Je me dis, bon, tu vois,
ah, oui, d'accord.
La machine fonctionne, mais alors, absolument pas.
Ouais.
Et six mois plus tard, rebelote. Et là, je me dis, bon, je dis à Bastien, j'ai dit, écoute, là, c'est absolument incroyable. Je pensais pas que c'était possible. Je pensais pas que c'était possible encore. Et là, et je lui dis, mais t'inquiète pas, je le garderai jamais.
Ouais.
Mon corps, il le gardera pas. Il le gardera pas et c'est pas possible. Physiologiquement parlant, je suis à bout et mon corps il peut pas tenir une autre grossesse aussi rapprochée. Je suis obligée de faire une fausse couche. Il me dit, mais si tu fais pas de fausse couche, je dis, si je fais pas de fausse couche, je le garde bien évidemment. Et alors là, il me dit, attends. Et donc je fais plusieurs examens. Et là, la gynéco me dit, écoutez, tout va bien. Et là, je vais voir Bastien et là, je lui dis, écoute, tout va bien. Surtout que c'est lui qui est allé chercher mes résultats au labo et tout. Il me dit, mais on peut pas. Il me dit, ils ont 18 mois, comment tu veux qu'on fasse, quoi? Comment tu veux qu'on fasse? Et donc, ça se passe très mal entre nous, à nouveau, à ce moment-là, quoi.
Ouais.
Et je lui dis, mais moi, comment t'expliquer? J'ai fait 4 ans et demi de PMA. C'est pas pour aller dire, j'arrête ma grossesse naturelle, quoi. Fait, à un moment donné, tout ce que t'offre la nature, tu le prends comme un cadeau. Et puis, ça s'arrête là. Je lui dis, de toute façon, on est débordés, effectivement. on a du mal à gérer. Effectivement, c'est pas un de plus qui va changer grand-chose. Il dit oui, mais tu te rends compte un peu cette grossesse quand tu vas la mener? Ben, je dis, ben, je vais la mener. Je lui dis, je vais pas me plaindre toutes les deux minutes à toi. J'ai bien compris que t'allais pas être réceptif. Et je lui dis, voilà. C'est à moi maintenant de préserver cet enfant et de faire en sorte qu'il arrive à terme. Voilà. Et l'histoire a recommencé.
Dernière grossesse ou pas d'ailleurs, je ne sais pas si tu veux d'autres enfants après, mais comment elle se passe? Est-ce que pareil, tu as été malade?
Oui, moi c'est mon truc. Donc je suis malade évidemment, hein, je vomis un peu partout, le matin, le midi, le soir, mais je ne dis rien. Je ne dis rien. Voilà, je vais vomir et puis je reviens. Parce que de toute façon, les enfants, ils ont besoin de moi, ils sont tout petits. Et puis, on va rentrer dans une période de Covid.
Et oui.
Et donc là, là ça va être compliqué parce que ben, il va falloir gérer la scolarité d'Arthur en même temps que ma grossesse.
Et ouais, plus les trois petits.
Plus les enfants qui sont à la maison. Impossible de sortir. Pas de grand-mère, hein, bien sûr. Voilà, ma mère étant très âgée déjà, j'ai évité de la solliciter trop souvent, mais ma belle-mère un peu plus, mais bon, elle travaillait encore à ce moment-là, et donc là, plus personne. Bastien, il a un métier où on le réclame régulièrement, et donc là, je me retrouve seule.
Wow.
Et donc là, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Le fait le fait d'être enceinte et de porter systématiquement les triplés à la maison, partout, ça risque de mettre en danger ma grossesse ou de me faire accoucher prématurément. Donc je me dis, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Mais en gros, je me fais à l'idée que je vais avoir encore un enfant préma.
Ouais.
Et pour moi, c'est assez difficile à vivre. C'est assez difficile à vivre. Mais au fur et à mesure des contrôles gynéco, on me dit non, mais tout va très bien. Le col est bien fermé. Vous n'avez aucun signe d'accouchement prématuré. Et puis, je commence vers 6 mois à avoir de très fortes contractions. Et là, le médecin me dit... il faut vous reposer, mais le col est fermé.
Ok.
Voilà, c'est incroyable. Je me suis dit, je vais accoucher à 6 mois, c'est horrible. Je mets 2 heures à m'en mettre à ce moment-là. Et en fait, non. En fait, non, c'était passager. Et puis la grossesse a continué. Et elle a continué tellement bien que j'arrivais plus à accoucher à la fin.
Ouais.
À la fin, je voyais plus la fin, je voyais le terme arriver là, à 2 jours près, j'étais à l'agonie, je dis bon maintenant, je suis aux normes, c'est le mois de juillet, les gosses sont insupportables, ils sont grands maintenant, ils sont lourds, j'ai énormément d'escaliers pour rentrer chez moi, c'est vrai, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai à peu près entre 40 et 50 marches pour accéder à ma maison.
Ah ouais?
Et ouais, donc tous les jours, en portant les enfants, les machins, les filles, les salles, l'accès chez moi est hyper restreint, donc c'est compliqué. On doit changer de voiture, puisqu'on avait un espace, mais ça suffisait plus, donc on achète un espèce d'utilitaire absolument dégueulasse, qui est moche, ça en peut plus, et qui a le frein à main bientôt collé au plancher. Moi, je suis enceinte de 9 mois, et j'arrive même pas, avec mon gros ventre, à atteindre... le frein à main, quoi. Tout est en montée, je fais des démarrages en côte. Enfin, c'est rocambolesque, le truc, c'est incroyable. Mais les choses se font, et quand je finis par accoucher, ça devient très compliqué, parce que là, Bastien m'a dit, mais moi, il faut bien que je garde des enfants. Donc, tu vas accoucher toute seule, parce qu'il faut savoir que Bastien, tout le long de ma grossesse, il m'a fait payer le truc, quand même. Et quand je suis allée accoucher, forcément, il fallait bien garder les enfants et c'était 1h du matin. Au départ, je suis partie toute seule à l'hôpital le matin parce que j'avais des contractions. Ils m'ont dit « Vous revenez parce que le col n'est pas ouvert. Donc, vous repartez chez vous, puis vous revenez. » Donc, je prends ma voiture, je remonte. Entre-temps, Bastien me lâche les gosses. Et toute la journée, je reste comme ça. Heureusement, j'avais une nounou avec moi sur la fin. On avait pris quelques chose pour m'aider de temps en temps. Quoi. Et là, au moment de l'accouchement, clairement, je l'ai appelée, je lui ai dit « Viens m'aider ». Et donc, toute la journée, on était à deux, mais moi, j'avais des contractions. Et quand elle est partie, Bastien, après, est rentré du travail. Et le soir, c'était devenu insupportable. Mais vraiment, je pensais que j'allais accoucher. Jusqu'à minuit, après à minuit carrément, je poussais dans le lit, je dis maintenant il va sortir. Et Bastien me dit non, tu. Il me dit t'appelles ton frère, tu vas à l'hôpital, t'accouches pas sur le lit.
Tu m'étonnes.
Et donc j'appelle mon frère qui vivait en dessous Et il me dit, bon, ben, je te descends. Il me dépose devant l'hôpital. Et là, j'appelle une copine. J'ai dit, bah, écoute, j'accouche si tu as envie de te joindre à moi. Pas toute seule. Et là, ça a commencé, genre, les contractions infernales. Et je croyais vraiment que mon col était... tu vois, que j'étais sur le bord d'accoucher. Hein.
Ouais.
Et en fait, je me dis, non, le col est à peine dilaté. J'ai dit, attendez, c'est une blague. Et, mais des douleurs, ça a duré toute la nuit, quoi. Et des trucs, je croyais que vraiment, j'étais... je connais hein, les accouchements. Hein. Et je croyais vraiment que j'étais sur la fin. Mais le mec, je m'accrochais au truc et tout. Le gars, il me regardait. Et un mec, c'était un sage-femme homme. Et le gars me dit... écoutez, je peux vous donner de la morphine si vous voulez. Et là, je le regarde et je lui dis, mais jamais de la vie tu me donneras cette cochonnerie.
Mais parce que là, pour cet accouchement, est-ce qu'il fallait obligatoirement que ce soit une césarienne du fait que tu avais eu les triplés ou pas du tout?
Non, en fait, je peux accoucher à par voie basse, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que comme on a une cicatrice sur l'utérus, oui, ça risque de croquer. Donc, ça devient dangereux au bout d'un certain... une certaine durée de contraction. Et là, clairement, mon bébé, il est arrivé, mais mon col ne se dilatait pas. Et c'était ça leur problème. Donc, ils étaient en train de se dire, bon, ben, on tente le... Le mec me dit, ben, même si le col n'est pas assez ouvert, on tente la péridurale. Et sinon, c'est césarien. Et donc, au matin, ils m'ont fait la péridurale. Et va savoir pourquoi. Tout de suite, les muscles se sont décontractés et j'ai accouché dans... dans les 2 heures qui suivaient, c'était plié, quoi.
Ah oui.
Et Bastien est arrivé, il a laissé le matin, donc du coup, il a laissé les enfants à la nounou. Et il est arrivé juste quasiment au moment où Paul allait sortir, quoi. Donc, ma copine lui a passé le relais, elle a dit, bon, je vais récupérer mes gosses et boire un café. On ne pouvait plus la prendre. Et j'ai accouché à ce moment-là. Ça a été hyper rapide.
Donc, tout s'est bien passé pour ce dernier accouchement.
Oui, oui, nickel. Hyper bien passé, du coup... enfin, sur la toute fin, mais je crois que c'est l'accouchement où j'ai eu le plus mal, le plus longtemps.
En fait. Ouais.
Vraiment, des douleurs insoutenables et pas de col qui s'ouvre, en fait. Vous avez l'impression de bosser pour rien.
Et alors, présentation de Paul à ses frères et sœurs, organisation dans cette famille nombreuse.
Ah ben ça, on aurait pu croire que ça allait être compliqué. Et quand Paul est arrivé à la maison, pour moi, c'était tellement facile. J'en avais qu'un. Et ça se gérait à la perfection. En plus, je l'avais tout le temps sur moi, tout le temps avec moi. Je connaissais ses besoins par cœur. Je savais quand il voulait manger, quand il avait ci, quand il avait ça. C'était tellement facile. Et c'était un bébé hyper, hyper éveillé, mais hyper calme. Enfin, je veux dire, c'était pas... Il pleurait pas beaucoup. Je sais pas, j'avais l'impression... J'étais pas stressée du tout. Je pense que ça joue aussi.
Ouais.
J'étais hyper à l'aise avec... moi, je suis hyper à l'aise avec les bébés, les nourrissons. C'était vraiment mon truc. Et ça s'est géré à la perfection. Les nuits, nickel. Les seuls qui nous posaient des soucis, c'était les triplés pour les nuits. Et donc, Paul, il a fait ses nuits hyper rapidement. Et ça s'est géré très, très bien. Il a grandi tellement vite. Et il a grandi au milieu d'un énorme bruit... récurrent, tous les jours, et j'avais l'impression que plus il y avait du bruit, plus il était calme. C'est un peu le système des bruits blancs, c'est-à-dire que tous les bruits que l'enfant va entendre dans le ventre, quand il les entend à sa sortie, eh ben, ça le tranquillise malgré tout.
Et donc, ouais.
Pendant le Covid, il avait dû entendre un maximum de cris, et finalement, c'est les cris des autres qui l'apaisaient lui, et pouvait faire la sieste en plein milieu avec des gosses qui hurlaient, qui couraient de partout. Ça le gérait, mais alors absolument pas. C'était assez fun.
Toi, t'as repris le boulot depuis ou comment ça se passe?
Alors, ça aussi c'est quelque chose que j'évoque pas mal dans mon livre parce que c'est des sujets un peu je vais pas dire tabou parce que voilà, y a rien de tabou hein, mais c'est un questionnement qui revient beaucoup de la part des gens, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler ouvertement. Lorsque j'ai fait l'émission, j'avais déjà un compte Instagram. Lorsque j'ai fait l'émission, que j'ai participé à cette émission, mon compte Instagram s'est largement développé à tel point que j'ai pu commencer à en vivre.
Ok.
Sauf que ben moi, j'avais envie de faire les choses quand même bien, donc il me fallait un agent, mais un agent qui soit, on va dire, cohérent et en phase avec ma façon de voir l'activité. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis pas une grande oratrice. Hein. Mon compte Instagram, c'est surtout mes gosses parce que je suis leur première fan. Donc, j'ai déjà quand même pas mal d'abonnés. J'ai une petite communauté.
Ouais.
Et là, l'émission vraiment fait augmenter le nombre d'abonnés. Et du coup, je sais pas quoi choisir comme agence. Et je tombe par hasard sur une toute petite agence qui vient de se créer. Et la maman qui gère le truc, c'est une mère de jumeaux. Et là, je me dis, bingo, mère de multiples. Elle tenait un blog depuis des années, elle a des contacts avec des marques qui sont tout à fait normales, entre guillemets. Et donc moi, c'est comme ça que j'ai envie de travailler. Et je commence à bosser là-dedans. Ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai créé ma structure et j'ai commencé à gagner ma vie correctement tout en restant avec mes enfants. Et c'était pour moi une chance inouïe. Inouï, parce que qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réussi en même temps, c'est-à-dire que l'aboutissement de ma vie, c'était d'avoir des enfants, et c'était, j'avais atteint mon objectif, c'était merveilleux, c'était plus que ce que je pouvais en demander. En fait, la vie m'a énormément gâtée parce que mes enfants sont mignons, sont en bonne santé, ils sont heureux de vivre, et même si c'est pas facile parfois, ben, c'est ça m'a transformée, puisque je me suis dit, maintenant, c'est ma vie. Avant, je ne vivais pas vraiment, en fait. Ça a commencé avec Arthur, et après, ça s'est décuplé avec l'arrivée de mes autres enfants. Ça m'a libérée, en quelque sorte. Et la seule chose sur laquelle je ne pouvais pas témoigner, c'était sur... Enfin, où je ne pouvais pas me sentir épanouie, c'était sur... on va dire ma carrière, puisque on était dans clairement un cliché familial, c'est-à-dire que bah, papa avait une bonne carrière, gagnait plutôt bien sa vie, et maman elle faisait job sur job sur job, tout simplement parce que bah, c'était à moi qui gagnait, c'était à celle qui gagnait le moins, celle qui gagnait le moins, de gérer bah, les enfants.
Ouais.
Et vu que moi, je n'apportais rien financièrement à la famille, il fallait que je déploie tout mon temps et toute mon énergie à mes enfants, ce qui était pour moi un bonheur. Mais malgré tout, vous avez toujours le petit pincement de vous dire « Mais moi, financièrement, je ne peux rien faire. Je ne peux pas les quitter. Je ne peux pas leur acheter des jouets quand ils veulent. Je ne peux pas, voilà, je peux pas leur acheter une maison plus grande. » Tout ça, ça repose sur le dos de papa. Et peut-être que lui aussi, c'est source de stress pour lui. Je ne peux pas... Voilà. Et grâce à ça... j'ai pu devenir pleinement épanouie, c'est-à-dire que dans notre couple, on a atteint un niveau d'égalité.
Ouais.
Lui, il prend part de la même manière que moi à la vie des enfants, à l'éducation des enfants, parce que quand il est à la maison, il peut faire moitié-moitié, il fait tout ce que je fais. Il est capable de gérer un nourrisson, comme il est capable de gérer un ado, comme il est capable de gérer un enfant en bas âge. Et à la fois, financièrement, il gère aussi. Et du coup, ça, le fait que je puisse travailler, ça a rétabli un équilibre total. C'est-à-dire que financièrement, j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice. Et lui aussi, ce qui fait qu'on était complètement en phase.
Ouais.
Et c'était devenu... Enfin, pour nous, ça, c'était une situation fabuleuse. Parce que ça nous a permis de pouvoir donner une autre vie à nos enfants. On a pu déménager. On a pu avoir une maison plus grande, on a pu gérer divers problèmes. Beaucoup de choses se sont réglées parce qu'il y a eu énormément de différents familiaux quand les triplés sont nés. Et je me suis retrouvée très seule, très isolée, notamment par rapport à mes problèmes avec ma famille. Et là, du coup, j'ai pu me donner une porte de sortie qui m'a permis de régler tous ces soucis-là. Et finalement, au fur et à mesure, j'ai bâti ma petite activité professionnelle. Maintenant, il s'est avéré que l'émission a été, au fur et à mesure, a été très dure à tourner pour moi, parce que malgré tout, qui dit vie sur les réseaux sociaux dit attaque permanente, et le fait d'être télévisé, du coup, vous en subissez beaucoup plus.
Ouais.
Et à un moment donné, j'ai dit, maintenant, j'ai ça, je développe mes petites compétences à droite, à gauche, je continue à exercer le job... dont on parle vulgairement en disant que c'est influenceuse. À travers mes réseaux sociaux, je représente aussi toutes les mères, malgré tout, qui ne sont pas écoutées. Et pour moi, ça, c'est un travail très important. Et c'est pour ça que je tiens absolument à en parler, parce que Je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels les femmes, on n'est pas écoutées. Et c'est pas parce que oui, maintenant on assiste à un développement du féminisme. Il y a beaucoup de mouvances qui disent accepte-toi tel que tu es, ton physique, ton machin et tout. Mais quand vous êtes une mère finalement, ben il y a pas grand monde qui va porter votre drapeau. Et puis surtout, mère de famille nombreuse qui en plus reste à la maison pour élever ses enfants, c'est pas du tout le truc très en vogue. Les femmes, elles sont plutôt avides de liberté, de carrière professionnelle, de ci, de ça. Moi, je représente un peu l'inverse. Mais malgré tout, je représente aussi la situation d'énormément de femmes dans notre société actuelle. Donc, c'est un peu leur donner une voix aussi que d'évoquer certains sujets, comme par exemple les problèmes que je rencontre avec mes filles à l'école. Je me suis rendu compte que les parents, ils étaient en panique totale et qu'ils n'avaient personne pour les écouter. Lorsque moi, je me suis sentie isolée aussi avec ce sujet-là. Et au fur et à mesure, partager tout ça fait que ça donne une voix aux parents qui vivent la même chose, aux mamans qui vivent les mêmes difficultés, dans tous les moments de la vie d'un parent, d'un enfant, quoi.
Ouais. Et on te parle aussi à travers tes réseaux des parcours de PMA ?
On en parle beaucoup des parcours de PMA, mais les parcours de PMA... comme je l'ai expliqué, c'est un moment dans la vie et c'est un moment qui ne dure pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est soit tu réussis, soit tu échoues. Et il faut passer à l'étape suivante. Moi, la PMA, ça a été une épreuve psychologique très importante pour moi. Et donc, parler de quelque chose qui me fait horriblement mal, ça reste compliqué. Donc, je sais qu'il y en a d'autres qui font le job. Et je me dis, moi, je vais parler quelque chose dont je maîtrise absolument le sujet et où je me sens hyper à l'aise et où j'ai envie de partager. Alors effectivement, sur les réseaux, je vais avoir tendance à me limiter. Parce que si les gens... quand j'ai tourné la saison 1 de l'émission, je me suis donnée à 100%. C'est-à-dire que j'ai fait rentrer les gens dans ma maison. J'ai fait rentrer les gens dans ma vie. Je l'ai fait avec avec l'honnêteté la plus... Voilà. J'ai fait avec la latte. En toute transparence. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, il y en a beaucoup qui m'ont écrasé, littéralement, de critiques, parce que ma maison, elle était bordélique. J'ai envie de dire,
ah ouais ?
Une mère qui gère des nourrissons et qui se retrouve souvent seule à la maison, tu crois franchement qu'elle va se préoccuper qu'il y a 10 biberons sur le plan de travail ? On a filmé mon plan de travail qui était un chaos absolu, mais sauf qu'on n'a pas filmé le moment où je l'ai rangé. Et en fait, c'est sur ces bouts d'images qu'on m'a massacré, littéralement. Et après, quand j'ai tourné les saisons suivantes, j'étais plus la même. J'étais la fille stressée de donner de l'image qui était réelle. Il y en a beaucoup qui l'ont compris avant moi, ça. Mais moi, j'étais hyper naïve. Et je me suis laissée dépasser. Et en plus, quand les gens ont appris que j'en avais encore un autre, ils ont dit, folle celle-là. Alors qu'en fait, la vie... c'est un tourbillon finalement et on est dedans et puis on prend les choses comme elles viennent et la vie de parents c'est ça pour tout le monde. Moi c'était avant tout de la spontanéité cette émission et il y a certaines choses qui se sont vraiment brisées quand j'ai vu la façon de réagir de certaines personnes et du coup après j'ai sur les saisons suivantes il y a eu un peu plus de réserve jusqu'à la dernière, où là, j'ai dit, bon, vous savez quoi, allez vous faire foutre. Et il s'est passé ce qui s'est passé, mes enfants, ils sont comme ça. Bon, ok. Et j'étais tellement épuisée à la fin de la cinquième saison que j'ai dit, c'est trop difficile, j'arrête. C'est pas que j'ai pas envie de partager à la télé, c'est que c'est trop dur.
Right.
C'est trop dur. Partager sur les réseaux, ça me permet quand même d'avoir un certain contrôle malgré tout. Et ma communauté étant bien plus restreinte que celle qui existe sur la télé... ça partage plus facilement, ça échange mieux et c'est beaucoup plus tranquillisant pour moi.
Et alors, comment s'entendent tous les frères et sœurs aujourd'hui ? Ça se chahute, c'est plutôt cool, ça dépend, j'imagine.
alors, je vais être honnête, puisque finalement, c'est un peu pour ça que j'accepte de parler. C'est le chaos, tout simplement, parce que là, on a des enfants qui sont plus grands. On a Paul aussi qui est grand maintenant, hein, donc il y a beaucoup de jalousie. beaucoup de disputes. Maxime veut jouer tranquillement, Paul lui prend ses jouets, etc. Les filles se disputent pas beaucoup, elles sont très fusionnelles, mais par contre, voilà, on a une espèce de brouhaha ambiant, de cris, de... c'est le bordel non-stop, ils balancent leurs jouets partout, je suis non-stop en train de ranger, voilà, je dois donner sur les réseaux peut-être un quart de ce qui se passe chez moi, parce que souvent chez moi, ben, même moi j'ai honte parce que je me dis putain.
La vie ordinaire d'une famille, quoi.
Ben, et puis c'est surtout que j'ai honte, je me dis si je devais reprendre les tournages, parce que j'ai quand même, voilà, je pense que la prod, elle a... Ils ont aimé en fait l'image que je pouvais donner parce que c'était une image sincère. Malgré tout, je triche pas et parce que je sais pas faire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis dit non, je peux pas y retourner. Voilà. Et si jamais j'arrive dans l'émission et que j'ai une série de gros mots ou de t'as tapé ton frère, t'as tapé ta sœur, ça crie, ça hurle. Voilà, pas plus tard que hier, Lucie, elle a voulu courir absolument dans la maison. Alors oui, on fait pas courir des enfants dans sa maison, mais le temps que je m'occupe d'un, l'autre a couru, elle est arrivée, elle s'est pris la vitre et le nez a saigné. Toutes ces situations-là, je veux pas les vivre à l'antenne. C'est pas possible.
Ouais.
Je me fais un ulcère à l'estomac si jamais je sais que ce genre de truc s'est diffusé, parce que vont se dire, ben voilà, la mère Gali, elle est là. Absence de gestion totale. Ces enfants, ils courent partout, ils sont incapables de se canaliser, ils se tapent les uns sur les autres, ils s'insultent, ils font n'importe quoi. Et à côté de ça, peut-être on va rater des moments où ils vont s'embrasser, où ils vont se dire « je t'aime », où ils vont dire « t'inquiète, maman, on est là, ne pleure plus », parce qu'il y a des moments où je suis désemparée et je me mets à pleurer, parce que j'ai pas toutes les clés.
Ouais.
Voilà, et c'est ça que je veux pas montrer. Je veux pas montrer à la télé.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Bah, ça a tout changé chez moi, la maternité. C'est-à-dire que j'ai découvert que j'étais une autre personne. Avant, j'étais introvertie, pas vraiment souriante. J'étais vraiment pas bavarde. Parler en public, c'était même pas la peine, puisque j'ai raté à peu près tous les oraux que j'ai fait dans ma vie, même les oraux que j'ai fait quand j'étais en poste. C'est-à-dire que les formations et tout, même à l'oral, j'étais nulle, mais nulle. C'est pas que j'ai envie de dire que je suis pas intelligente ou j'ai pas envie de me rabaisser. C'est pas ça que je veux dire. C'est que j'étais quelqu'un qui savait pas s'exprimer, qui savait pas exprimer ce qu'elle avait à l'intérieur, parce que j'étais rongée en fait. J'étais trop introvertie. Toute ma vie, j'ai passé mon temps à me retenir sur tout, sur ma volonté d'avoir des enfants jeunes, sur dans ma carrière, je me suis laissée écraser par des patrons qui me cassaient les pieds, par des collègues qui étaient parfois aussi pas forcément sympas, par des postes qui n'étaient pas intéressants. On m'a vraiment... et au fur et à mesure, on m'a écrasée. Et déjà que je ne m'exprimais pas beaucoup, la PMA elle est venue accentuer ce truc, c'est-à-dire qu'elle m'a fait sombrer petit à petit. Et quand finalement je suis sortie de tout ça, ça m'a libérée. Et quand j'ai commencé à faire de la télé, il faut le dire... Hein, quand j'ai commencé à faire de la télé, ça a libéré ma parole. C'est-à-dire que on m'a dit, mais Florie, exprime-toi, parle, dis ce que tu as à dire. Et j'ai appris au fur et à mesure. Et comme j'avais plus ce sentiment d'avoir quelque chose qui me manquait, d'être malheureuse, puisque mes enfants étaient là, mais il n'y avait plus rien qui pouvait m'empêcher de parler. Plus rien. La maternité, en fait, ça m'a permis de découvrir celle que j'étais réellement et que j'ai jamais voulu laisser sortir. Et que si j'avais pas fait tout ça, je me serais jamais découverte comme je suis aujourd'hui. Et c'est une chance pour moi d'avoir pu vivre tout ça. Mais il y a aussi une volonté de ma part, malgré tout, parce que même dans mon silence, j'étais quand même tenace, parce que je savais que le bonheur que je voulais, je pouvais l'atteindre uniquement si j'allais au bout de tout ça.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Ok.
C'est quoi pour toi être une maman capdéloise ?
Alors, c'est déjà participer. Alors, petite chose dont je ne vais pas parler, puisque je me suis lancée dans une formation pour faire un CAP petite enfance, parce que je pense que c'est vraiment ce qui me manquait professionnellement. Et j'envisage de faire tous mes stages à Cap d'Ail, donc dans la ville. Et donc, du coup, de prendre part finalement à tout ce qui est petite enfance dans cette ville que je viens de découvrir. Il n'y a pas si longtemps que ça, au final.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Cap d'Agde ?
Il faut savoir que Cap d'Agde, c'est frontalier avec Monaco, mais c'est une question de trottoir. Tu vois, c'est-à-dire que là, par exemple, je descends, je suis dans mon devant mon immeuble, je suis à Cap d'Agde, je traverse la rue, je suis à Monaco.
D'accord.
Finalement, les endroits kids-friendly, ça serait les jardins d'enfants qui sont juste derrière la plage à Cap d'Agde et le jardin d'enfants qui est juste après à Monaco.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille ?
Mes projets rien que pour moi, c'est une nouvelle orientation professionnelle. Donc là, j'ai peut-être un projet en cours, mais pour l'instant, je ne suis pas autorisée à en parler. Et mon projet professionnel, c'est justement en support de faire cette formation, parce que j'ai besoin en fait de connaître quelle est la différence entre la vie de parent à l'intérieur du foyer et la vie professionnelle dans une structure ou avec une assistante maternelle, parce que je me dis dans ma vie, je vais gagner ma vie comme je fais actuellement, puis là j'ai d'autres projets professionnels qui vont démarrer, je vais faire plein de choses. Mais il va y avoir un moment où je vais vieillir et je vais laisser, mes enfants vont grandir et je vais laisser de côté un petit peu toute cette frénésie-là et je vais avoir envie de faire quelque chose où je me pose et qui me plaise et où je m'épanouis. Et je n'envisage pas, en fait, de prendre ma retraite des enfants, que ce soit les miens ou ceux des autres. Et donc, je pense que jusqu'au bout, tant que physiquement je peux, je veux me consacrer aux enfants, aux miens et à ceux des autres. Je veux pas rater dans ma vie de voir des enfants naître, grandir, s'épanouir, et je veux le faire nombre de fois incalculable. Donc moi, en tant que femme, biologiquement, je vais pas le faire jusqu'à la fin de ma vie. Mais j'ai envie de partager mon expérience et d'apporter le savoir que j'ai pu acquérir durant toutes ces années. J'ai envie de le partager et j'ai envie aussi de travailler toute ma vie avec des enfants. Et donc, c'est pour ça que je démarre ces formations, parce qu'il faut aussi se positionner en tant que maman, mais aussi en tant que professionnelle. C'est hyper important de connaître les deux aspects de la vie avec des enfants, quoi.
Et tes projets en famille ?
Alors, les projets en famille, je dirais que si je suis motivée et que j'ai les finances... Faire des voyages avec une famille nombreuse, parce que pour l'instant c'est vraiment le pas que j'ai pas encore sauté. Voyage, quand je dis voyage style avion, destination lointaine.
Merci beaucoup Florie.
Je t'en prie, avec plaisir.
Voilà les mamas, c'est un épisode qui s'achève. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès mardi prochain pour découvrir une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast préférée et rejoignez la communauté Hello Mamas sur Instagram. À très vite!
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.